Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du cas Hanfield, l'histoire de la famille Hutchison. Aujourd'hui, c'est certainement l'histoire qui a le plus bouleversé l'Angleterre. C'est l'histoire d'une famille qui semblait soudée, unie, jusqu'à l'arrivée d'un poltergeist venant semer la terreur dans ce foyer. Les phénomènes paranormaux s'accentuent dans la maison de jour en jour, d'année en année, menaçant de mettre en péril la vie tranquille de ses habitants. C'est l'histoire de Peggy Hutchison. Elle était une jeune femme pleine d'entrain, malgré un mariage qui s'est finalisé en divorce. Elle était également la mère de quatre enfants, Margaret, l'aînée, Janet, Johnny et Billy. La famille, meurtrie par le divorce, décida d'aller habiter dans la banlieue nord d'Enfield, dans une jolie petite maison qui leur plaisait beaucoup. Peggy y éleva seule ses enfants. Bien que Johnny soit un garçon turbulent, cherchant toujours des problèmes à ses frères et sœurs, il était tellement turbulent que Peggy s'était décidée à l'envoyer dans un internat en espérant que celui-ci se calme. Cet internat était loin de la famille. Tout semblait aller pour le mieux. Margaret, qui était studieuse, rendait très fière sa mère. Janet, avec son tempérament de folie, rendait la maison plus gaie aux yeux de tous. Mais en août 1977, la tournure des choses changea radicalement. Au moment des faits, Margaret avait 13 ans, Janet 11, Johnny 10, et le cadet n'en avait que 7. Alors que Janet et son frère Johnny dormaient dans la même chambre, un bruit sourd se fait entendre dans celle-ci. Les enfants sursautèrent, et Peggy vint dans leur chambre, en hurlant aux enfants de se calmer, croyant que ce bruit venait de Janet ou de Johnny, qui jouait encore à une heure tardive. Mais la mère n'était pas au bout de ses surprises. Alors qu'elle ordonnait aux enfants de se rendormir, d'autres bruits se firent entendre, suivis d'un glissement de commode vers le milieu de la chambre. Tous étaient choqués. Ils criaient en s'accrochant à leur mère, qui elle-même était effrayée par ce qui venait de se passer. Malgré tout, Peggy reprit ses esprits et remit la commode à sa place, ne croyant pas un instant que le phénomène était d'origine paranormale. Mais pour la deuxième fois, la commode revint glisser contre le plancher pour se positionner au niveau de la porte de la chambre. Peggy, ne se doutant de rien, essaie de remettre la commode à sa place. Mais celle-ci semblait tellement lourde qu'il lui était impossible de la déplacer. La peur montait dans le corps de la mère, qui ne savait plus quoi penser à cet instant présent. Après avoir demandé aux enfants de descendre, elle s'empressa aussitôt d'aller voir ses voisins pour leur demander de l'aide en leur expliquant la situation et ce qui venait de se passer. Ceux-ci, un peu sceptiques face au récit de la mère, se décidèrent quand même à aller voir pour voir ce qui leur avait bien pu arriver et aider la pauvre femme. En entrant, le couple de voisins analysa la maison sans rien y trouver d'anormal. Mais ce n'est que quelques minutes après que des bruits se firent entendre dans les murs. Où qu'ils allaient, le bruit les suivait. Tous étaient dans l'incompréhension totale. Ils croyaient que quelqu'un était caché, incitant donc Peggy à appeler la police pour qu'ils viennent inspecter eux-mêmes la maison. Celle-ci expliqua aux policiers ce qu'il s'est passé depuis le début de la nuit. Les policiers eurent alors la même réaction que les voisins. Mais en pénétrant dans la maison, les mêmes bruits et tapements contre le mur recommencèrent. Le fauteuil qui se trouvait dans le salon se déplaçait tout seul, sans aucune raison rationnelle. Les policiers, stupéfaits par ce qu'ils voyaient, partirent en disant que ce qui se passait dans la maison était d'ordre spirituel, et donc pas de leur ressort. Les membres de la famille restèrent tous pour dormir au rez-de-chaussée, blottis les uns contre les autres. Mais plus les jours passèrent, et plus les phénomènes devenaient récurrents. Des jouets disparaissaient, des billes glissaient, seules. Les bruits sourds étaient toujours présents, et rien n'allait en s'arrangeant pour la famille. C'est le 4 septembre, après la rentrée des enfants, que Peggy se décida à contacter les journaux pour leur expliquer ce qui lui arrivait, à elle ainsi qu'à sa famille. Dès le lendemain, toute une équipe arriva sur les lieux, munie d'appareils photos, de caméras, de quoi noter, prête à capturer tout ce qui pouvait être exaltant pour son journal. Les enfants, quant à eux, étaient épuisés. Ils ne dormaient pas la nuit, ou très peu. Les journalistes, dès leur arrivée, se rendirent compte des phénomènes paranormaux qui se passaient dans la maison. Les encouragements à contacter la SPR, une société spécialisée dans les phénomènes paranormaux. C'est alors que Maurice Goose vint enquêter sur ce qui se passe dans la maison. C'était un père de famille ayant décidé de rejoindre cette société peu de temps après la mort de sa fille, Janet, fauchée en moto avec son petit ami. Un souvenir qui le hantait. Il estimait qu'il n'avait pas été un bon père avec sa fille, qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour elle, et qui s'il avait été bon dans son rôle de père, il lui aurait évité une fin aussi tragique. La relation avec sa femme était tout aussi médiocre depuis la mort de leur enfant. Après avoir rejoint la maison de Hudson, il voyait en Janet sa propre fille et jura de l'aider. Les phénomènes paranormaux continuèrent très longtemps, ainsi s'aggravant de jour en jour. Si bien qu'en septembre, les esprits semblaient plus menaçants que jamais. Des chaises pivotaient sur elles-mêmes, des billes volaient contre le mur d'une extrême violence, pouvant même causer la mort de celui-ci qui croisait son chemin. Les jours passaient et l'affaire de Hudson faisait la une des journaux, attirant un collègue de Goose, Guy Playfair, qui vint prêter main forte. Celui-ci pensait que ce n'était qu'une mise en scène et que rien ne se passait. Remettait même en cause les compétences de Goose et lui pria de se retirer de l'affaire. C'est ce qu'il fit, laissant Playfair se charger de l'affaire. Les éléments inexpliqués ayant cessé depuis l'arrivée de celui-ci, un soir, alors que les caméras étaient installées dans toute la maison, Janet était dans sa chambre, pleurant le départ de Goose, qui était son confident et comme son deuxième père. Le rideau de sa fenêtre vint s'enrouler autour du cou de celle-ci, l'étranglant violemment. Playfair, en voyant la scène depuis la télé du salon, s'en alla rapidement dans la chambre du premier étage pour aider la fille qui, face à cette violence de l'étranglement, avait les vaisseaux des yeux qui commençaient à rompre. Face aux preuves évidentes, Playfair rappela donc Goose pour avouer qu'il avait bien raison et qu'il fallait trouver un médium pour découvrir ce qui se cachait derrière ce poltergeist. Ils invitèrent Annie Shaw et son mari afin de faire une séance de spiritisme. Son mari commença à réciter une prière et Annie prit la parole en hurlant de s'en aller. Sa voix ayant totalement changé, elle riait au nez de manière effrayante. George, son mari, décida de faire un arrêt sur la séance, en tendant un miroir à Annie pour qu'elle regarde son visage et retrouve ses esprits. Le poltergeist cracha au visage de George avant qu'Annie ne reprenne le contrôle de son corps. Elle avoue par la suite que plusieurs esprits sont présents dans la maison et qu'ils sont tous centrés vers Janet. Après le départ des Shaw, les phénomènes se calment peu à peu, mais continuent à tourmenter la petite Janet, manquant presque de la tuer en l'étouffant. Les Hudson décidèrent donc de faire une pause en allant en vacances au bord de la mer, espérant que ces vacances aideront la famille à souffler un peu. Effectivement, ces vacances étaient très reposantes pour toute la famille, mais après être revenus à Enfield, les habitudes reprirent très rapidement. Le 10 novembre, jour de l'anniversaire de Janet, Goose vit la petite fille se faire propulser dans les airs. Plus les jours passaient, et plus les pouvoirs du poltergeist se grandissaient. Les deux jours suivants, il y eut des déplacements d'objets et de matelas. Le matelas de Janet fut propulsé par terre alors qu'elle se trouvait dessus. Le poltergeist prenait aussi possession du corps de la petite fille pour pouvoir s'exprimer. Plusieurs jours passèrent comme celui-ci. Janet se fait propulser à terre ainsi que sa grande sœur, plus d'une cinquantaine de fois. La mère, impuissante face à tant de violence, décida donc d'appeler des médecins afin d'examiner Janet. Ils en conclurent à de l'hystérie et même de l'automutilation. Les médecins envoyèrent la fille chez un psychiatre, concluant que les chocs électriques étaient la médication la plus sûre pour ces cas-là. Rien ne semblait aller. La petite fille subissait chaque jour des chocs électriques. Elle ne parlait plus, sa joie de vivre avait disparu depuis longtemps déjà. Et Goose supplia la mère de tirer Janet de cet enfer, en lui promettant de trouver une solution. Peu de temps après avoir sorti Janet de l'hôpital psychiatrique, la jeune fille était toujours victime de projections contre le sol et contre les murs. Mais un jour, en se réveillant, celle-ci se mit à dessiner plusieurs dessins monstrueux. Un dessin retint l'attention de Peggy, celui où on voyait une femme saignant à la gorge et où le nom était inscrit « Watson, Peggy ». Donna les dessins à Goose, qui, entreprit une enquête afin de savoir qui étaient ces Watson. Il s'avérait qu'un couple habitait ici avant les Hodgson. La femme avait succombé à une tumeur de la gorge et le mari se serait éteint dans la maison peu de temps après la mort de sa femme. Un jour, Goose essaya de rentrer en contact avec le poltergeist, qui accepta à condition que la porte soit fermée. La voix se révéla être celle d'un vieil homme, très bavard, qui expliqua à l'enquêteur qu'une dizaine d'entités habitaient la maison, et que celui qui parlait se nommait Billy. Billy habitait anciennement dans la maison, où il était seul. Il avait eu un fils et une fille. Mais étant alcoolique, ceux-ci se sont vite enfuis de la maison. Il avoua être mort seul dans le fauteuil du salon, et que son corps aurait été retrouvé plus d'une semaine après sa mort, les mouches ayant alerté les voisins, qui auraient donc appelé la police. Goose se mit à la recherche de cet homme, qui n'était autre que Billy Wilkins, et qui aurait bien évidemment séjourné auparavant dans la maison. Les phénomènes se manifestèrent, même hors de la maison. Les voix prenaient possession de la jeune fille, même en dehors de la demeure, en insultant les Paxans par exemple. La voiture de Goose, qui était comme neuve, faisait des siennes. Parfois elle ne pouvait même pas démarrer. Parfois elle s'arrêtait brusquement et ne redémarrait plus. Les phénomènes affectaient même les voisins ou les membres de la famille, qui n'étaient pas avec eux lors des faits. En 1978, Guy Playfair fit une dernière tentative, en amenant la jeune fille à un médium, Dono Gemelling Myling, qui était connu pour avoir déjà résolu plusieurs affaires de ce type. Il exerça des prières dans la maison, et directement après, le calme revint. Malgré quelques phénomènes, ceux-ci semblaient beaucoup moins violents, et c'est en 1979 qu'un prêtre vient bénir la maison. Ce fut la libération, pour les Hodgson. Le poltergeist avait enfin disparu.